Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous. Les élections en Libye, il faut y croire, il faut s'y préparer. En tout cas, le chef de la haute commission électorale nationale libyenne dit qu'il va faire un geste, une prolongation pour que les électeurs, les futurs électeurs du rendez-vous électoral du 24 décembre, puissent s'inscrire. Une prolongation a été décidée jusqu'au 17 août. À la fois, elle concerne les Libyens qui sont sur le territoire national, mais également les Libyens qui résident à l'étranger, qui peuvent aussi donc entamer une démarche à l'égard de leur ambassade selon le pays de résidence, de telle façon à ce qu'ils puissent participer à ce rendez-vous, cette élection qui sera une première du genre après 10 années de guerre civile. Est-ce que ce rendez-vous va pouvoir se tenir? En tout cas, la commission électorale, elle essaye de ne pas se poser trop de questions et de mettre en place tous les moyens nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au terme de ce processus électoral. Et justement, quand on parle campagne électorale, il y a des mots qui portent et on s'interroge beaucoup à la fois sur Benghazi, Siad Jofra ainsi que Tripoli. Après cette déclaration qui a été faite par Al-Islam Khadhafi, donc le fils de l'ancien dirigeant Khadhafi, qui a accordé une interview au New York Times dans laquelle il dit « Je suis un homme libre et je m'arrangerai pour revenir sur la scène politique ». Alors comment revenir sur la scène politique? Il n'est pas très précis, mais il n'en reste pas moins qu'il apporte des éléments sur sa lecture de la situation actuelle en Libye. Bon, il reprend ce que nombre de Libyens disent sur le fait que il n'y a pas d'argent, pas de sécurité, que quand on va à la station-service, il n'est pas rare de se retrouver sans carburant parce qu'il n'y a pas d'approvisionnement, alors que le pays est producteur de pétrole et de gaz, qu'il fournit par exemple l'Italie en électricité, alors que en Libye même, il y a toujours ces problèmes des coupures d'électricité. Bref, il pointe les dysfonctionnements du pays et ne cache pas qu'il pourrait s'engager en politique. Très précisément, non. Alors on peut participer à cette idée qui voudrait que cette interview dans un média américain soit en fait une sonde, une bouée pour pouvoir mesurer quels sont aujourd'hui les soutiens ou les exaspérations que pourrait signifier un retour du clan Khadhafi dans la vie politique libyenne. C'est tout le sens, semble-t-il, de cet entretien qui a été accordé à un média américain. L'actualité du Covid dans la région Maghreb, nous allons commencer avec donc la Libye, nous y étions à l'instant, mais la Libye qui vient de recevoir 2 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm, donc qui va pouvoir commencer à être administré. Il y a toujours eu beaucoup d'inquiétudes quant aux services sanitaires libyens. On s'est longtemps demandé s'ils étaient en capacité de gérer le nombre de cas. Ils étaient assez peu nombreux, ces cas quotidiens, mais là on assiste depuis quelques jours, quelques semaines, à une recrudescence de contamination. Au Maroc, face à une certaine tension quant aux hausses du nombre de personnes contaminées par le coronavirus, les autorités ont pris des décisions de sauvegarde et de prévention. Le couvre-feu nocturne est rétabli de 21h à 5h du matin. Des mesures, bien évidemment, pour fermer les restaurants, les cafés, les hammams, les salles de sport, les piscines, etc. Également restreindre toutes les activités qui concernent des grands nombres de populations. Tout cela, bien évidemment, afin de sensibiliser, de rassurer, de dire aussi qu'il est nécessaire de faire un geste collectif avec toujours cette nécessité de rappeler aussi la bienveillance des gestes barrières à la fois pour soi, à la fois pour les autres, pour ceux que l'on aime, pour ne pas les contaminer. Et puis en Algérie, il y a toujours la polémique concernant les outils dont dispose le pays pour pouvoir fabriquer de l'oxygène, pour pouvoir soutenir et pour pouvoir soigner les personnes qui se présentent dans des centres de santé ou des centres hospitaliers. Le ministre de la Santé algérien essaye de rassurer la population. Selon lui, il y a un différentiel entre ce que dit la presse et l'état de la santé publique algérienne qui, selon lui, serait en capacité de prodiguer des soins avec de l'oxygène. Et il y aurait aussi une montée en gamme, nous dit le ministre et les autorités sanitaires algériennes, pour pouvoir acheter toujours plus de respirateurs qui permettront aux personnes touchées par la Covid-19 d'être soignées, en tout cas d'avoir de l'air pur pour essayer de tenir jusqu'à ce que le mal s'en aille. La Tunisie, avec ses dernières décisions du président, à savoir de remercier, de limoger le ministre de l'économie et des finances et de l'appui à l'investissement, ainsi qu'un autre ministre qui, lui, était en charge de la technologie et de la communication. Beaucoup d'inquiétudes de la classe politique, mais également des observateurs. Après les décisions qui ont été prises par le président tunisien, il n'y a pas de premier ministre. Le poste est toujours vacant. Il y a également des députés, on s'en souvient, qui ont été arrêtés, notamment Yassine Ayari, qui avait dénoncé, je cite, un coup d'État militaire. Il a été condamné à 2 mois de prison. Il y a également toutes les mesures qui sont prises de reprise en main, va-t-on dire, hein, des rouages de l'État et de la communication par le président de la Tunisie, ce qui pose aujourd'hui un grand nombre d'interrogations. Maintenant, il ne faut pas tout confondre, notamment sur cette affaire d'un député, Faisal Tibini, hein, qui a été arrêté hier. En fait, les 4 plaintes qui pesaient à son encontre datent de 2019 pour des faits de diffamation, d'injures, d'appel à la désobéissance civile, mais semblerait ce n'est pas directement lié aux événements politiques des derniers jours et des dernières semaines en Tunisie. Enfin, pour le Maghreb, toujours une enquête en cours après qu'un employé d'une société qui exploite l'aéroport de Nouakchott, après la découverte d'un sac plein de devises fortes, hein, c'était des dollars, beaucoup d'argent. Alors, il y a eu plusieurs sommes qui ont été annoncées, soyons prudents, mais a priori, il s'agirait d'environ 1 200 000 dollars. Également, donc, de l'argent qui était libellé en d'autres monnaies nationales. Pourquoi autant d'argent? Pourquoi tout cela transitait dans un sac, dans un aéroport? Les autorités mauritaniennes mènent une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire.
Ce proche Proche-Orient si loin de nous.
Notre destination du jour est l'Irak, avec ce geste de solidarité de l'Union européenne qui est un geste important puisque ce sont 8 millions de dollars qui vont être livrés au service de lutte anti-mine des Nations Unies. Et c'est pour une mission bien précise, puisqu'il s'agit de venir en aide à l'Irak, pays qui a été touché par 2 guerres dites du Golfe. L'Irak également, il y a toujours ces combats qui se poursuivent contre les poches résiduelles du groupe État islamique. Il y a également toutes les tensions avec les Kurdes, la présence des forces turques qui exercent un droit de poursuite contre les forces du PKK, etc. Donc en fait, il y a toujours des combats aujourd'hui en Irak, certes de moindre importance qu'avant. Il y a toujours des dépôts de mines. Il y a aussi tous ces engins de mort qui ont été déposés au cours de ces dernières décennies. Il faut même parler de décennies, c'est absolument catastrophique. Ça peut être dans l'agriculture, un paysan qui par exemple va prendre sa charrue, sa bête et essayer de labourer quelques mètres et qui va perdre une jambe et parfois même perdre la vie parce qu'il y a une mine non explosée. Cela pose aussi un problème pour le bétail. Parfois ce sont les animaux qui vont poser le pied sur un engin de mort et qui vont s'en trouver soit estropiés, soit qui vont mourir. En fait, toutes les activités de subsistance, même l'artisanat, tout ce qui est relatif à l'activité humaine est potentiellement menacé par cette problématique des mines. Donc c'est important que l'Union européenne ne se désengage pas de ce dossier. On parle beaucoup du désengagement des forces occidentales, américaines bien évidemment, mais c'est vrai aussi qu'il y a une responsabilité de toutes ces puissances qui sont intervenues en Irak durant les 2 guerres du Golfe et qui ont laissé dans leur sillage, alors si ce n'est elles, ce sont les ennemis, mais le fait est c'est qu'il y a eu des champs de mines, il y a eu des engins qui ont été placés en des lieux stratégiques de la vie quotidienne. Il est tout à fait important que l'Union européenne continue de se mobiliser sur ce dossier. Il faut rappeler, et là on peut évoquer un autre continent, une autre partie du monde, c'est qu'en Asie, par exemple au Vietnam et par exemple au Cambodge, même si la guerre est terminée depuis 1975, il y a toujours des gens qui vont être blessés, il y a toujours des gens qui sont estropiés par des mines qui ont été posées voici plusieurs décennies. Donc ça veut dire que ces engins maintiennent un climat de guerre, même lorsque le conflit est totalement achevé. C'est là tout le sens de l'action, de la générosité engagée par l'Union européenne envers les Nations Unies qui vont intervenir au déminage en Irak.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.